le Messie arrive, Jésus revient, je vous apporte la bonne parole, le Messie arrive, Jésus revient, ce n'est plus qu'une question de temps. Nos amis chrétiens en sont absolument certains et ils font tout pour que Jésus revienne. Pour ça, ils viennent de loin, de très loin, des États-Unis et ils viennent jusqu'ici, en Terre Sainte, à Tibériade. Je vois Tibériade comme je vous vois, c'est juste au bout de cette route. Et c'est là que nous allons les rencontrer, ces chrétiens, pile poil à l'endroit où on a vu Jésus la dernière fois, il y a à peu près 2000 ans. Alors pourquoi s'intéresser à ces chrétiens? Eh bien parce qu'ils sont un tout petit peu particuliers, ce sont des chrétiens sionistes. Ce sont des chrétiens sionistes qui militent et qui s'activent parce que c'est en Israël que le Messie viendra, une fois que le peuple juif y sera rassemblé. Aussi, ces chrétiens sionistes font tout ce qu'ils peuvent pour inciter les juifs de la planète tout entière à venir en Israël, car c'est en Israël qu'aura lieu la bataille finale, annoncée par l'Apocalypse, comme vous le savez, bataille finale entre Dieu et les forces du mal sur la plaine d'Armageddon. Et c'est là, à l'issue de ce combat, que les juifs se convertissent au christianisme pour éviter un nouvel holocauste. Vous pensez que tout ça est un peu vague, un petit peu imprécis, c'est ce que nous pensons aussi, c'est pour ça qu'on voudrait avoir quelques précisions, mais il faut savoir que les chrétiens sionistes représentent un lobby extrêmement puissant aux États-Unis, qui a un poids important non seulement sur la vie religieuse des États-Unis d'Amérique, mais sur la politique des États-Unis d'Amérique, comme ici en Israël, et on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. En attendant qu'on ait découvert le poteau rose, aujourd'hui dans la basse où j'y suis, on continue la balade en Galice avec l'ami Ramon Chao, qui va nous faire découvrir des drôles de choses concernant un autre lieu saint, un autre lieu où souffle le religieux, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Et vous allez voir qu'il se pourrait bien que le Saint-Jacques en question soit un imposteur ou pas loin, selon notre guide. Voilà, c'est tout de suite. Auparavant, des messages sur le répondeur de la basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je viens d'entendre là que Monsieur Hervé Guémard ne sait pas où aller loger. Alors moi, bon, j'ai pas grand-chose, hein, j'ai une petite villa dans le sud de la France. S'il veut, je peux, sur les 8 enfants, je peux déjà en loger 3 ou 4. Hein. Ils dormiront dans les chambres des enfants qui sont vides en ce moment. Et puis à la limite, il fait pas trop froid ici. Il y a une caravane là à côté chez mon voisin. À la limite, il pourra loger sa femme et le reste de ses enfants. Voilà, hein, dites-lui. Si on peut lui faire la commission, moi c'est volontiers, hein, parce que vraiment, comme on dit chez nous, peu cher, il me fait de la peine. Allez, bye bye.
C'est Edmond de Clermont-Ferrand. Ma femme s'est suicidée il y a 3 ans et 265 jours. Elle était assaillie par le handicap et la maladie et plongée dans un état dépressif dont elle semblait cependant émerger. Elle a voulu partir aussi dignement qu'il lui en était laissé la possibilité. Elle a pris soin de se vêtir, de quitter sa chambre sans faire aucun bruit, sans me réveiller. Pourquoi ce suicide? Parce que, après avoir longuement milité dans la DMD, l'Association pour mourir dans la dignité, elle avait fini par ne plus croire à la possibilité d'une mort assistée et vraiment digne. D'où cette mort qui la fit briser au bas de notre immeuble. Si elle avait eu la possibilité d'une mort assistée et digne, peut-être serait-elle encore là, parmi nous, à mon côté. Voilà. Je vous remercie.
Oui, bonjour, c'est Laurent à Lyon. Donc je téléphone suite aux deux émissions qu'il y a eu sur la France-Afrique avec François-Xavier Verchave pour donner quelques informations. Les gens se demandent qu'est-ce que ils peuvent faire. Et ben moi, pour en tout cas pour les Lyonnais, je peux leur dire que le samedi 19 à 15h, il y a une manifestation qui partira de la place Bellecour en soutien aux démocrates togolais. Donc cette manifestation est ouverte à tous. Elle s'adresse évidemment aux Togolais, évidemment à toute la diaspora africaine, puisque les Togolais ne sont pas les seuls touchés par la France-Afrique. Et évidemment, elle s'adresse aux Français qui veulent dire non à la politique qu'on mène en Afrique en leur nom. Le jour de la mort de Eyadema, Jacques Chirac a dit qu'il perdait un ami personnel et aussi un ami de la France. Alors un ami personnel, ça le regarde, mais un ami de la France, eh ben, ça nous regarde, nous, Français. Et donc, vous êtes invités à nous rejoindre à cette manifestation. Et il faut le dire que non, Eyadema n'était pas notre ami. Et il faut venir soutenir nos amis africains qui se battent là pour leur liberté. Le site de survie, www.survie-france.org. Merci Daniel.
Voilà Daniel, je suis routier là, je sors du shuttle en Angleterre et je viens de voir des clandestins marcher le long de l'autoroute, carrément en plein milieu de l'autoroute sur le terre-plein central. Encore des mecs qui ont un rêve et le rêve c'est d'arriver de l'autre côté et franchement s'ils savaient, je dirais que c'est là où ils sont. Voilà, je suis écœuré juste par cette situation, par la misère, ça se paraît un peu bateau, ça fait un peu fleur bleue, tout ça. Mais, voilà, moi j'ai encore une capacité de m'indigner devant ça. Donc des gens qui ont tout lâché, ils ont lâché leur misère, mais ils ne savent pas qu'ils les retrouveront encore de l'autre côté. Donc voilà, l'émission de développement à la ELF. Si tout ce pognon était utilisé à leur donner du travail sur place, là où ils sont, à les aider dans la dignité, ben, ça n'arriverait pas. Voilà, c'est un petit coup de gueule et surtout, je me rends compte que tout ça est moche. Encore merci, continuez bien en tout cas. Salut!
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vantel et Ramon Chao, là-bas si j'y suis, en Galice, Saint-Jacques de Compostelle.
Flight number 2, arriving from New York.
Chevalier.
Tu sais, quand les pèlerins arrivaient ici à Compostelle, et c'était sale, etc. Et il y a une petite rivière, une source là à 12 km où il y a l'aéroport maintenant qui s'appelle Lavacoya. Lavacuille. Hein, et c'est laver les couilles.
Ah, avec vous, on ne peut jamais faire quelque chose
mais
de correct.
Mais ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle.
Voilà, on arrive. On se lève. On arrive à Saint-Jacques de Compostelle, c'est pour entendre.
C'est Lavacuille.
Lavacuille.
Alors, il s'est lavé là.
Consternant, commencer comme ça, eh oui. Mais quand même, on se demande combien furent-ils à se les laver de la sorte au cours des siècles et des siècles, ces pèlerins en arrivant, qui arrivaient à Santiago, Saint-Jacques, du Champ de l'Étoile, Compostela. Combien depuis le 9e siècle, lorsque une étoile indiqua miraculeusement que les reliques du grand Saint-Jacques, Saint-Jacques le Majeur, étaient arrivées dans cet endroit de la Galice, cet endroit du monde. Depuis ce 9e siècle, tous les chemins mènent à Saint-Jacques. On connaît bien sûr le symbole de la coquille Saint-Jacques, qui a été piqué d'ailleurs par la société Shell. Et on sait, à travers la France, ces chemins qui sont marqués de cette coquille, à travers la France, à travers l'Europe, ces chemins éclairés par la Voie lactée, disait-on, menaient à Saint-Jacques de Compostelle, six chemins faisant on n'était pas arrêté par des bandits, ou par la maladie, ou par une bonne fortune, ou par un amour qui vous arrêtait en chemin. Tout au cours du Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, et puis avec une reprise récemment, on pèlerine vers Saint-Jacques de Compostelle, parce qu'on a la foi, parce qu'on veut obtenir des indulgences, parce qu'on a des pardons de fautes à négocier. Jadis, des seigneurs qui avaient fauté déléguaient leurs domestiques sur les chemins de Saint-Jacques, mais c'était aussi, et c'est toujours aujourd'hui, simplement une soif de connaître, de bouger, de se déplacer. Le guide des chemins de Saint-Jacques constitue le premier guide touristique, pourrait-on dire, d'un certain Picot. Et puis c'est tout au cours de ces chemins une économie qui s'est développée, une économie hôtelière notamment, une architecture évidemment. Et les jacquets, ceux qui faisaient le chemin de Saint-Jacques, s'appellent en Espagne les caminos. Il y a des tas de gens qui s'appellent caminos, ben c'est les gens du chemin. Et puis il y a des Français qui s'appellent du chemin. Très souvent, c'est à cause du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. En fait, au 9e siècle, la civilisation occidentale qui s'est affirmée, qui a basculé l'invention, pourrait-on dire, de ce lieu de pèlerinage. Et voilà, Tipa, que notre ami Ramon Chao, avec qui nous faisons et terminons ce voyage aujourd'hui, prépare un ouvrage qui met en cause des choses très très importantes. C'est une vraie controverse dont il se fait le relais, il n'est pas le premier, mais qui risque de prendre quelque importance, à savoir qu'il conteste, avec d'autres donc, le fait que ce soit les reliques, les restes, les ossements de Saint-Jacques qui soient à Compostelle. Il dit non, ce ne sont pas les reliques, les restes de Saint-Jacques, mais d'un autre, d'un certain Priscillien, qui était un hérétique, qui était un hétérodoxe, qui fut décapité à Trèves pour hérésie, et que ses fidèles, ses disciples, ont transporté jusqu'à cet endroit. Et aujourd'hui, donc, ce serait non pas Saint-Jacques qu'on viendrait vénérer, mais Priscillien. Alors, ça semble, on dit, oh ben, c'est une querelle d'experts, une controverse d'historiens. Oui, oui, peut-être, mais attention, Saint-Jacques est un symbole très, très important. Non seulement c'est le symbole de l'Espagne, de l'unité espagnole, c'est avec Saint-Jacques en tête que les conquistadors ont conquis les Amériques, ce qui n'est pas rien. Quelqu'un comme Franco se réclamait de Saint-Jacques pour écraser la République espagnole. Et Saint-Jacques était aussi le Matamor. Le Matamor, c'est lui. Matamor, ça veut dire celui qui tue des morts. Et les morts, c'était les Arabes, c'était l'islam. C'est ce symbole-là aussi que représente, qu'incarne Saint-Jacques. Alors, si depuis autant de siècles, ce n'était pas lui qui était là-dedans, si c'était un autre, il se pourrait bien que dans nos archéologies mentales, dans notre sens de l'histoire, quelque chose en serait perturbé. Voilà en tout cas la controverse qui nous entraîne aujourd'hui en visitant la cathédrale de Saint-Jacques, alors de Compostelle, ou bien de Priscillien de Compostelle. L'histoire telle qu'elle était racontée, c'est que Saint-Jacques,
ouais.
Le corps de Saint-Jacques dérive.
Oui, sur un bateau en granit de pierre. Hein. Il est venu, je ne sais pas comment il n'est pas tombé dans l'Atlantique, mais enfin, soi-disant, il était venu évangéliser la Galice. Et quand il est mort, vous savez, il a été décapité à Jérusalem en l'an 44. Ses disciples l'auraient ramené ici, 8 siècles plus tard, il y a un ermite qui dit, j'ai rêvé qu'une étoile s'est posée sur l'endroit, etc., et c'est le tombeau de Jacques, etc., etc. Alors, ils ont fait des fouilles, et en fait, ils ont découvert des ossements. Alors là, ils ont commencé à dire, c'est Saint-Jacques, c'est la porte Saint-Jacques, etc., etc., et les pèlerinages ont commencé.
Alors, toi, dans ton travail, on va en parler de ce travail, tu es en train de mettre en cause la présence même de Saint-Jacques ici, ça veut dire que tu es en train tout simplement de mettre en cause un des éléments les plus forts du catholicisme, oui. et quand même aussi de l'Occident, parce que le chemin, il y a Compostelle, puis il y a le chemin pour Compostelle, et ce chemin...
C'est l'Europe. Oui, mais c'est pas moi. D'ailleurs, déjà, Unamuno, qui est un de nos plus grands penseurs du début du siècle, il a écrit noir sur blanc, je ne crois pas qu'il y ait un chrétien avec un minimum de culture qui puisse croire que les restes qui se trouvent à Compostelle sont ceux de Saint-Jacques. Et il dit, ce sont ceux des Prisciliens. Il le dit, c'est Unamuno, ce n'est pas n'importe qui. C'est,
Alors, toi, en quelques mots, tu dis en gros, non, c'est pas les reliques de Saint-Jacques qui sont ici, c'est celles d'un certain Priscillien qui était considéré comme un hérétique et qui a été martyrisé.
Décapité, torturé et décapité parce qu'il a incorporé beaucoup de croyances et des rites, des religions cosmiques au christianisme.
Et qui est enterré ici. Et alors, sans le savoir donc depuis le 9e siècle, des millions de pèlerins sont venus ici sur la tombe d'un hérétique.
Bon, ici d'abord, cette cathédrale, c'est une cathédrale priscillianiste. Ouais. D'abord, on est là, c'est l'orientation. L'orientation, elle est orientée vers le Finistère. Le Finistère, c'est le lieu de culte de toutes les religions naturelles d'Europe, enfin du continent à l'époque. À l'époque, je ne dis pas à l'époque des Prisciliens, beaucoup plus souvent. Enfin, les gens venaient ici au Finistère galicien, c'était la pointe la plus extrême du continent, pour voir et pour adorer et pour voir comment se terminait la Terre, où se terminait et qu'est-ce qu'il y avait après la Terre. Alors, les pèlerins, c'est symbolique, ils venaient d'Orient, c'était l'alpha et l'oméga, le début et la fin.
Belle ville, Saint-Jacques de Compostelle, des ruelles, de granit, on est bien dans cette ville, il y a une échelle, une dimension qui fait qu'on y respire bien et on arrive par tous les chemins alors à cette cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. C'est une façade baroque, mais la façade qui est du 18e n'a pas éliminé la façade romane, c'est-à-dire le tympan de la gloire. C'est-à-dire qu'il y a la façade baroque, on entre et on retrouve l'ancienne façade intacte, ce tympan.
Ah oui, le tympan de la gloire.
Qu'est-ce qui se passe après?
Ah oui, ça...
Oui,
il y a des rites qu'il faudra accomplir, par exemple, de battre la tête contre la tête de cette sculpture, et ce qui est la sculpture de Maître Mathieu. On cogne un bon coup de tête et tu deviens intelligent.
Il faudrait que j'essaye.
On va essayer, moi j'ai déjà fait. Hein. Ce geste-là, de battre la tête, c'est pour prendre l'énergie de la terre. Mais évidemment, ici, on a aussi dévié la signification de
ça. C'est ça, c'est-à-dire que l'histoire de la christianisation de l'Europe, comme par ailleurs, on pourra parler de l'islam, ou même du bouddhisme, ou même de l'hindouisme, mais enfin, en tous les cas, ici, pour ce qui nous concerne, là, vous voyez très bien, vous, à votre niveau, là, de Galicien, que on a recouvert, récupéré tout ce qui était de pratique et de religion animiste, oui. Polythéiste.
Mais c'est un peu comme partout, hein.
Comme partout.
Partout, les Vierges Noires, à Montserrat, en Catalogne, enfin, à Chartres, etc. Et il y a la queue là pour placer la main dans une, les traces d'une main, les cinq doigts. Aussi. Bon, il faudrait demander, parce qu'ils vont te dire, c'est passé la main de Dieu, c'est pour etc. Bon, c'est le même principe, c'est mettre la main où le maître Matteo a laissé son empreinte, c'est pour récupérer la connaissance. Mais la connaissance est sotérique, et initiatique.
Hein? Tout à fait, c'est la main du créateur, en tout cas, d'un créateur, de la création.
Mais il faut le faire,
hein? Bien sûr, on va le faire. Alors, il faut mettre ses cinq doigts dans les cinq trous.
Einstein avait un crucifix sur son bureau et on lui avait demandé, mais Albert, et quand même, vous, écoute, pour le moment, ça ne m'a pas fait de mal. Alors bon, ici aussi, on peut mettre la main.
Mettre la main dans les cinq trous en mettant l'autre main, la main gauche.
Là, c'est pas très c'est assez irrévérent de mettre le cul.
Il n'a pas compris. Il dit que les gens attendent pour taper leur tête qu'il a enlevé son cul.
C'est que la dame attend là.
La dame attend, oui.
La dame attend que le monsieur. Voilà, le monsieur avec les lunettes de soleil.
Et le geste que nous a fait la femme, t'as vu. Ils ont un geste comme de dégoût parce qu'il a vu.
On ressort de la cathédrale, c'est magnifique parce qu'il y a un beau soleil de septembre.
Là, sur ce portique, là, il y a à droite, tu vois, une fille, enfin une dame, avec un crâne sur les genoux.
Ah là là.
Il a une poitrine qui est en l'air et l'autre recouverte, etc. Mais impressionnant, et là, comme s'il avait un enfant. Un nouveau-né.
Tout à fait.
Si tu veux, il y a deux explications aussi. L'explication officielle, c'est une dame qui avait trompé son mari et son mari a tué l'amant. Il a coupé la tête et l'obligeait tous les jours à se promener avec la tête de son amant et l'a embrassé deux fois par jour. Et au bout de quelques temps, la tête est devenue
un crâne.
Mais il y a...
C'est une explication qui est pas mal.
Qui est pas mal du tout. Il y a l'autre explication priscillianiste. C'est la Vierge, quand elle a enfanté son deuxième enfant, parce que bon, il paraît qu'il en a eu 6 ou 7, la Vierge. Mais elle ne pouvait pas avoir un autre enfant. C'est-à-dire que pour que Jésus soit Dieu, il fallait pas qu'il ait un autre enfant. L'autre ne pouvait pas ne pas être Dieu.
Bien sûr.
Alors, pour que Jésus soit Dieu, l'autre a été sacrifié. Mais la mère ne voulait pas. Ça, c'est l'explication priscillianiste.
C'est très beau aussi.
Ici, à Compostelle,
Santiago non est enterrado aquí. Santiago non est enterrado aquí. Es prisciliano qui
bon,
est enterrado.
Bon, c'est garçon.
D'où il sort?
Quel est-ce que tu
si.
Bon, c'est un étudiant.
Pourquoi tu parles de priscillien?
Bueno, porque prisciliano fue un homme que estuvo aquí. Et la verdad, non sais si está aquí enterrado prisciliano.
Moi, je ne peux pas dire que ce soit priscillien qui soit ici. La légende nous dit ça, que c'est Jacques.
A teoría más crible, o sea, desde mon punto de vista, es que Prisciliano fue enterrado aquí.
Ce qu'on peut le croire avec plus d'éléments, c'est que Prisciliano a été enterré ici.
Y resulta que aquí había gente viña aquí a adorar esa tumba que había ahí.
Et les gens venaient adorer Prisciliano.
Rencontre intéressante quand même que ces deux étudiants qui passent par là et qui nous entendent parler de Priscillien et qui se réclament de Priscillien. Ce sont des gens qui contestent en fait l'autorité castillane, l'autorité de Madrid, l'autorité espagnole et qui font de Priscillien le symbole, un symbole galicien. Et c'est quand même intéressant de voir jusqu'où on essaye de creuser, de descendre pour retrouver ou affermir une identité, celle de la Galice.
Ce monsieur a l'air andalou.
Se nota, ¿no?
Se sí, nota, sí, oui, ça s'entend, oui. Tu dis que tu as raison, non? Ils sont.
Je pense que si, non?
Mais qu'est-ce que cet ami que des amis à toi sur
non,
le
non,
parcours?
Je n'ai pas mis, non.
Pourquoi vous attendez à la sortie de l'église en train de lire le journal?
Non, parce que je venais à ver Butafumeiro, mais je ne viens pas à ver Cusac.
Ah oui, oui je venais voir l'ascensoir.
Mais... Oui,
en attendant, je reste ici à lire le journal. Je ne veux pas m'ennuyer à l'intérieur comme un chameau.
S'ennuyer comme un chameau. Alors pour se désennuyer un peu, le monsieur va pouvoir assister à un spectacle qui est le clou du spectacle dans cette cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. C'est le Botafumeiro. Vous allez voir, regardez bien, vous êtes à l'intérieur de cette cathédrale, vous assistez à l'office et voilà. C'est quand même un rite étonnant que celui de l'encensoir. Il y a un certain nombre d'officiants, on va appeler ça les sacristains, avec des toges ocre rouge. Qui sont en train, qui s'activent. Alors pour l'instant, on a l'impression qu'ils préparent une pendaison. On a vraiment l'impression qu'ils préparent une pendaison. C'est-à-dire que il y a une corde qui monte tout en haut de la nef de la cathédrale et qui retombe. Et au bout, il y a l'encensoir. Alors, il y a tous ceux qui vont tirer cet encensoir vers le haut. Et Ramon. Alors, on a allumé l'encensoir.
Il faut qu'on aille la voir. On va revoir le...
On dresse l'encensoir. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à le lever. Alors, cet énorme encensoir, évidemment, là, il vient vers nous. Il balance vers nous dans notre direction. Il le lève très fort, il redescend, il le relève, il monte à la moitié de la nef, il redescend, il y a... Ils sont 6 tirés, il se balance, il vient vers nous maintenant, il se balance à travers toute la nef.
Il se dégage, tu vois, enfin, il commence à remplir les nerfs, la fumée.
Ouais, déjà. C'est complètement fou parce qu'il y a du soleil qui entre par les vitraux. Et ça fait dans la fumée des raies comme ça de lumière, des sortes de haubans de lumière. Et voilà cette boule métallique qui monte presque jusqu'à... On aperçoit en dessous une étoile qui est sculptée en dessous. Ah, il y a des flammes maintenant.
Quelle mise en scène baroque, hein, c'est vraiment...
C'est
le
extraordinaire.
Baroque.
Ça, on dirait les carousels aux Tuileries, tu vois.
Oui, oui. C'est la foire du trône. Évidemment, ça devait frapper les imaginations. Alors, on se demande maintenant qu'ils ont lancé cette masse à travers l'espace, qui décrit donc un arc de cercle. Oh là ! On a l'impression que ça va cogner dans le haut de l'église. Et les 2, 4, 6, 8, 9, il y avait une dizaine à tirer et à manœuvrer. Et là, on ralentit, on arrive. Je ne sais pas quelle manœuvre au fond, il y a un freinage, je ne sais où.
Ça, c'est le moment le plus important maintenant, quand ils vont arrêter d'un coup. C'est le moment le plus dangereux.
Está comentando que son función principal era funcionar de ambiente para quitar el
mal olor. C'est ça maintenant. Tu vois la musique aussi qui accompagne le suspense.
Gracias, maestro. Más misterioso.
Alors il se balance toujours un peu. Maintenant cette boule peut partir n'importe où. Elle pourrait très bien aller cogner sur l'autel, aller cogner la chair, parce qu'on l'aperçoit à gauche, la chair. Sculptée en bois magnifique d'ailleurs. Ça se ralentit.
En principe, il y en a un qui sort là, en ce moment, qui sort là.
Ah, il peut faire un.
Il sort.
Ah, il a fait tourner.
Voilà, il a fait tourner. Il saisit cette boule du feu. Voilà.
Et d'un coup de rein,
il la bloque.
Il la bloque, oui.
Et c'était, voilà, c'est ça, l'odeur de sainteté.
Oui.
Ah. Oui, ouais, c'est l'encens, il a mis.
Alors, vous venez se purifier et c'est un peu.
Oui, parce que ces odeurs te purifient.
Ouais.
Ça te nettoie de tes péchés, de tes mauvaises.
Physiquement aussi, enfin, tes mauvaises odeurs.
Voilà. Ouais. Maintenant, on est au parfum. Pourquoi les pèlerins ont-ils cette coquille Saint-Jacques autour du cou?
Parce que on dit que la légende dit que pendant la translation du corps de l'apôtre Saint-Jacques
pendant le transport, quoi,
oui, le transport
depuis
de
Jérusalem, depuis
Jérusalem,
la Terre Sainte,
oui, de Jérusalem à la Galice, un chevalier portugais accompagnait tout le temps le corps de l'apôtre au bord de la mer. Il accompagnait. À un moment où la mer remontait, l'homme est resté sous l'eau. Et tout le monde avait pensé que cet homme est mort, parce qu'il avait passé une heure, une demi-heure. Mais après ça, il est sorti, lui et son cheval, plein de coquilles. À partir de ça, on dit que l'apôtre Saint-Jacques voulait, comme la représentation, la coquille Saint-Jacques, symbole de pureté. Parce que Saint-Jean-Baptiste faisait le baptême avec une coquille. C'est le moment où nous entrons à la vie ecclésiastique, la vie de Jésus-Christ.
Que c'est beau, moi je contrôle même pas si ce que vous dites est vrai ou pas, tellement c'est beau.
Moi je suis sous le charme de notre guide Marisol, et on peut me raconter n'importe quoi, avec des histoires aussi belles que ça, et histoires dont se grisaient tous ceux qui venaient là, de loin on venait à Saint-Jacques, à travers la France, on partait de la Tour Saint-Jacques, et oui, la Tour Saint-Jacques à Paris, on partait de Tours, on partait de Vézelay, on partait du Puy, on partait d'Arles, mais même de, on venait, dit-on, d'Éthiopie, on venait d'Inde, de l'Inde lointaine, pour arriver jusqu'à Saint-Jacques, symbole donc du christianisme, symbole de, enfin, du catholicisme même, hein, symbole de notre Europe. Et c'est ce symbole que certains contestent, controversent, et c'est le cas de notre ami Ramon Chao, pour qui ce n'est pas Saint-Jacques qui est dans ce reliquaire, ce sacré reliquaire, mais ce Priscillien, cet évêque qui vécut au IVe siècle et qui est dans l'histoire le premier à avoir subi la peine de mort pour hérésie. Il a été exécuté en janvier 385, lui et six de ses disciples, dont une femme. Alors, est-il là ou non? Pourquoi exactement fut-il condamné? Le mystère pour nous, pour l'instant, reste entier. On s'approche, quoi qu'il en soit, du fameux reliquaire.
Ah, il faut se glisser, se faufiler entre les échafaudages. Ah, ouh, que c'est beau, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Bon, c'est le reliquaire. Hein, c'est où on dit que c'est le corps de l'apôtre Saint-Jacques.
Mais vous, est-ce que vous avez vu ce qu'il y a dans le reliquaire?
Jamais les reliquaires fermés. Si vous avez de la foi, c'est vraiment l'apôtre Saint-Jacques qui est enterré ici. Et si vous n'avez pas de la foi, vous êtes ici aussi. Alors?
Mais on m'a dit que ça pouvait être peut-être les reliques, les restes de Priscillien.
Oui, mais on ne veut pas les savoir. Pour nous, c'est l'apôtre Saint-Jacques. C'est comme poser la question si et c'est vraiment Saint-Pierre à Rome.
Eh oui, on est sûr de rien.
Alors l'Église dit, c'est l'apôtre Saint-Jacques. De l'autre côté, justement, vous voyez, le pape est venu, Jean-Paul II, 1582, il dit, je suis venu pour voir les reliques de l'apôtre Saint-Jacques, pour y garder seulement les cercueils pour savoir qu'il est vraiment ici. Et pour dire à la chrétienté que ça, c'est un des chemins de, important de pèlerinage pour gagner les indulgences.
Et pour gagner des indulgences, c'est ça le but de l'opération.
Ouais.
Alors vous qui visitez tout le temps, vous avez une pile d'indulgences.
c'est vrai. C'est pas...
Ramon, qu'est-ce que tu ressens, toi, face à ce reliquaire?
Moi, je ressens une certaine émotion, vraiment, mais à l'idée que c'est priscillien. Mais je dois dire qu'en dehors de Santiago, qui ne doit pas s'appeler Santiago de Compostela, mais Priscillien de Compostela, en dehors de ce périmètre de Compostela, Santiago n'intéresse pas beaucoup en Galice. Il n'y a pas un culte à Saint-Jacques. Donc, dans mon patronat, je suis à Villalba, Santiago n'existe pas. Et mon père me disait tout le temps, ce n'est pas Saint-Jacques qui est enterré là, c'est Priscillien. Il me le disait, et le disait en se référant à Unamuno, parce qu'Unamuno l'écrit noir sur blanc dans un de ses livres de voyage.
Soleil. Est-ce que vous entendez?
Beaucoup de fois, en plus, il y a un écrivain galicien qui l'écrit en castellan, normalement. C'est.
Torrente Ballester.
On va mettre un sou. Alors, c'est combien ça? Monnaie, 100 pesetas.
Ça allume 12 cierges. D'un coup.
D'un seul coup, et ouais. C'est électrique. Donc, il n'y a pas de fumée, c'est plus simple, c'est plus propre.
Par contre, si tu mets 500 pesetas, là, tu fais carrément 60 cierges d'un coup. C'est quand même plus avantageux.
Tu veux qu'on joue, à deux?
Je joue et je mets pour Priscillia. Hein, on va voir si ça s'allume. Hein,
on va voir. Bon. Ça clignote, c'est normal.
Ça clignote. Oui, ça s'est pas allumé. Non.
Si,
je mets pour Saint-Jacques ou non? Tu sais que dans la Bible, Jacob,
Jacques,
c'est l'usurpateur. Dans la Bible, c'est comme ça, c'est l'usurpateur. On met ça pour l'usurpateur.
L'usurpateur. Ça marche? Ça marche?
Oui.
Ça marche aussi.
Pour tous les deux.
Bon. Donc.
Tout le monde est content.
200 pesetas, ça suffit.
Peut-être qu'un beau jour, avec les progrès de la science et de l'histoire, qui est une science, on saura enfin qui est le soldat inconnu. Ça fait pas sérieux de pas savoir qui est ce gars-là. Et alors on s'apercevra, je sais pas qui s'appelle, Jeannot ou Raymond. Bon, mais imaginez qu'on identifie le soldat inconnu et qu'on s'aperçoit qu'il s'appelle Kurt ou Fritz. Ce serait quand même un grand jour. Ou bien qu'il s'appelle Mohamed. Ça ferait drôle. Ou bien que c'est une femme. Et ben c'est un peu ce qui nous arrive là avec Ramon Chao dans cette sublime cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Notre ami Ramon Chao est persuadé que ce n'est pas Saint-Jacques qui est là, mais Priscillien. Et depuis le 4e siècle, c'est Priscillien qui est là, et donc ces millions, oui, de pèlerins sont venus sur le tombeau, prier, implorer les reliques, non pas de Saint-Jacques, mais d'un hérétique hétérodoxe condamné par l'Église. Alors, on continue la balade dans cette cathédrale avec Marie-Soleil.
C'est le portail de la gloire où on peut voir aussi l'enfer. Et quand on parle de l'enfer, tout le monde pense à la même chose, le flamme de l'enfer. Mais Saint-Jean nous disait, chacun, vous savez votre propre enfer.
Ah,
regardez ça, justement à côté de l'ange qui joue la trompette, ouais. Il y a un petit homme sur l'arc qui mange un sandwich.
Qui mange un sandwich?
Un sandwich. Un autre qui a la tête en bas et le jambon haut. Vous le voyez? Bien. La personne qui mange le sandwich, c'est celui que vous dites le gourmand, qui passe son temps à manger. Il a un sandwich à la main, une couleuvre autour du cou, alors il ne peut pas le manger. Pour lui, l'enfer, c'est ça. hein, qui regarde son sandwich, mais qui ne peut pas la manger.
Pour moi, c'est la création de la musique. C'est donc, ils sont en train d'accorder les instruments. Donc, ils vont créer la musique, et à partir de la musique, du son, il y a l'organisation du chaos. Et donc, c'est un principe pythagoricien et donc priscillianiste, puisque Priscillien était très, très... il sortait directement de l'hellénisme et du pythagorisme. Alors, la sainte, le Daniel, c'est un sourire magnifique, magnifique, ironique. C'est vrai qu'il peut très bien regarder les seins de la dame d'en face, qui peut être aussi la Reina Lupa. Oui, la Reina Lupa, c'était une régulasse, c'est-à-dire une reine déléguée de Rome, ici, qui a permis que le reste des Priscilliens reposent ici. C'est elle qui a donné à un terrain, la colline libre. Alors, c'est là où on repose. Et c'est elle qui aurait permis que Priscillien repose ici. Alors, il lui est reconnaissant. Et donc, il lui sourit un signe de remerciement. Et la troisième, c'est qu'il se moque gentiment des pèlerins qui viennent ici, en croyant qu'ils viennent adorer Jacques, alors qu'ils viennent adorer Priscillien. Parce que, bon, Maître Mathieu aussi, il se peut qu'il ait été un priscillianiste cryptique. Tout ce qu'il a fait ici, c'est parce que les priscillianistes ont dû se cacher pendant des siècles. Alors, est-ce qu'ils sont restés des priscillianistes et qui ont monté toute cette scénographie pour que les gens viennent et ils s'adorent Priscillien? Parce que je vais encore un peu plus loin. Peut-être l'évêque qui, au 9e siècle, a dit... Je rêvais, j'ai vu une étoile, et c'est là où se trouve Priscillien.
Oui, oui.
Il y en a qui disent, c'est un priscillianiste cryptique pour faire perpétuer le culte de Priscillien à travers Jacques. Donc, on est peut-être devant une énorme, terrible supercherie que tout a été fait par des priscillianistes pour perpétuer le culte.
Ironie de l'histoire, supercherie, ce serait quand même étonnant, mais pourquoi pas? Ramon Chao est très très persuasif, il n'est pas le premier, il est vraiment minoritaire, difficile de trouver dans une documentation courante, dans des guides, la moindre allusion à ce Priscillien. Alors on ressort de la cathédrale de Compostelle, je n'ose pas dire Saint-Jacques, et on rencontre un personnage qui tombe, mais vraiment à pic, qui est un très grand érudit, qui s'appelle le professeur Manuel Diaz y Diaz, et qui est professeur à l'université de Saint-Jacques, et qui a étudié, mais de très très près, qui est une sommité, qui a étudié très très près ces questions de Jacques ou de Priscillien. Alors, dans une ruelle de Saint-Jacques, on s'arrête, on s'attable et on écoute, mais alors on boit les paroles du grand professeur.
En fait, c'est qu'il a été décapité à Trèves, en 387, et deuxième fait qui est très bien témoigné, est-ce qu'il a été transporté par la suite, c'est-à-dire ce reste, non, son corps a été transporté par ses disciples valyciens ou hispaniques, comme vous voudrez. Alors, il y a deux faits qui sont, disons, historiquement incontrastables. C'est le fait qu'il a été décapité et le fait que le corps a été transporté en Espagne. Bien. Deuxième fait. Et il y a la tradition de la translation de Saint-Jacques à Compostelle. Malheureusement, et le récit de la translation sont tardifs et nous ne connaissons pas un seul témoignage ancien sur la possibilité de ce transfert de Saint-Jacques de Palestine en Espagne. Et nous savons seulement que vers la première moitié, disons, peut-être le premier tiers du 9e siècle, le corps de l'apôtre, on a accepté la thèse, a été découvert ici à Compostelle. Or, on a pensé depuis quelques cent ans que ce sont les restes des Prisciliens, ceux qui sont ensevelis à Saint-Jacques au lieu de l'apôtre. Mais je trouve qu'il y a la même difficulté à prouver cela qu'à prouver la continuité des restes de Saint-Jacques. C'est la même difficulté. Nous savons seulement qu'il y a eu, évidemment, une translation de Priscillien, mais nous ne savons pas où il a été transféré. Mais on ne peut pas expliquer l'obscur par l'obscur. Et bien entendu, c'est mon avis. Alors, naturellement, je crois que nous sommes face à deux hypothèses, ou deux, si vous voulez, deux croyances, qui ont, disons, un même poids. Si vous voulez penser à Priscillien, alors c'est Priscillien et quelques-uns de ses disciples. C'est tout.
J'arrive toujours pas à comprendre, Ramon et vous, en quoi est-ce que ce Priscillien et sa philosophie sont si différents. Tout ce que j'ai compris jusque-là, sur ce qui le différencie du reste du mouvement de l'Église, c'est qu'il était conservateur. C'est tout ce que je comprends. Toi, Ramon, tu dis, c'était un peu comme une sorte de Luther, comme une sorte de réformateur, enfin, le symbole d'un schisme important dans l'Église. Je n'arrive pas à comprendre en quoi est-ce que vous l'opposez à ce point.
Il y avait quand même un élément qui a dû jouer beaucoup. Et son ascétisme, il prêchait la pauvreté et luttait contre la corruption de la hiérarchie. Peut-être ça a joué.
Oui, parce qu'il était attendez, il y avait deux ou trois personnes qui avaient les mêmes idées que Priscillien à l'époque. Et ces personnes étaient, d'une part, Saint Jérôme, d'autre part, Saint Martin de Tours. C'est-à-dire, c'était deux personnes qui étaient très, très, très proches de Priscillien dans son idée de l'ascétisme chrétien, et ce que tu devrais faire pour pratiquer les vertus, etc., face à la hiérarchie et à d'autres théologiens et d'autres théologies qui aimaient plutôt une certaine accommodation avec l'établissement, etc., etc. Par contre, lui, il était évidemment un lutteur enragé, et il était un homme qui pratiquait, d'une part, la pauvreté et qui évoquait... Il pratiquait la pauvreté, mais d'autre part, il vivait ensemble avec des gens riches, n'est-ce pas, et en tirait profit de ces gens-là, n'est-ce pas, mais en tout cas, il pratiquait la pauvreté, n'est-ce pas, et il aimait la pauvreté, et il pensait que la pauvreté était quelque chose qui était, disons, consubstantiel à l'Église. Alors, naturellement, toutes ces choses-là choquaient tellement avec les évêques de l'époque qui étaient devenus petit à petit, le chef de lieu. Non, le chef de lieu, c'est-à-dire, il était une sorte de gouverneur, une sorte de lieutenant du pouvoir, etc., etc., naturellement.
C'était « Là-bas si j'y suis », reportage en Galice de Daniel Mermet et Guy Vanctil, à lire de Ramon Chao, Priscillien de Compostelle, aux éditions Terre de Brume. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique « Là-bas si j'y suis ». À la technique ce soir, il y avait Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur, de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, l'email daniel.mermet@radiofrance.com ou encore le bon vieux courrier postal France Inter, Daniel Mermet, 116 avenue du Président Kennedy, 75 016 Paris. Prochain rendez-vous avec Daniel Mermet, c'est lundi à 17h.